Interview BO par Benoît Bazirico.
La compositrice Camille Delafont a signé la musique de Rien ni personne, premier long métrage de Galien Guibert en salle le 28 février. Voici un échange qui a eu lieu dans le cadre d'une rencontre au festival Premier Plan d'Angers en janvier 2024. Compositrice. Alors tout d'abord, au niveau des formations, aujourd'hui se développent de plus en plus les formations dédiées à la musique de film. Il y a des classes de musique de film. Camille, de ton côté, tu viens de formations très variées, à la fois musique contemporaine et jazz.
J'ai même fait des études d'histoire avant de reprendre mes études de musique. Et effectivement, j'ai commencé par être musicienne. Je jouais du piano depuis longtemps et puis... Voilà, j'ai fait cette formation de jazz dans une école qui s'appelle l'American School of Modern Music à Paris, et pendant 4 ans. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à faire de la musique de film, pendant cette période-là. Et ensuite, j'ai étudié la musique électroacoustique, donc qui fait partie un peu de la musique contemporaine, on peut dire. Mais voilà, donc là, c'est plus des techniques de... Enfin, une écriture du son, apprendre à travailler la matière sonore, l'espace, les textures, voilà, la composition électroacoustique. Et plus tard, je suis retournée encore au conservatoire. Là, j'ai passé un DEM. Et ensuite, je suis retournée plus tard au conservatoire pour étudier la musique contemporaine, instrumentale, mais parce que j'avais envie. Voilà, c'était pas... On n'est pas obligé de faire tout ça pour faire de la musique de film, c'est ça que je veux dire.
Oui. Et souvent, on dit qu'un compositeur, une compositrice de musique de film, il y a un côté caméléon. La qualité première, ce serait la versatilité, c'est-à-dire la capacité à s'adapter à tous les univers, faire une comédie un jour et un thriller le lendemain, et même parfois pour un même film, changer de registre, puisque une première proposition ne convient pas, la capacité de faire une autre proposition opposée. Et donc, le fait d'avoir fait à la fois du jazz et de la musique contemporaine permet déjà d'avoir un éventail peut-être large.
C'est vrai, mais justement, je pense que c'est aussi une des difficultés de faire ce métier, c'est-à-dire qui on est. Je suis avant tout compositrice, avant d'être compositrice de musique de film, enfin avant, pendant. Mais je fais des choses en dehors de la musique de film, et je pense que la question de l'identité, elle est essentielle pour tout le monde, pour soi bien sûr, mais aussi pour les réalisateurs, réalisatrices avec lesquels on va travailler. Donc oui, je pense qu'il y a quand même une première partie où on fait ses classes, je vais dire, et on s'essaye à plein de styles. Et c'est vrai que c'est une des choses qu'on acquiert avec le métier, de pouvoir faire des choses très diverses. Là, je travaille sur des choses complètement orchestrales sur un projet, et en même temps, je travaille sur des choses complètement électroniques et plus pop sur un autre. Donc, c'est vrai, mais j'espère qu'aujourd'hui, voilà, mon identité est quand même là.
C'est tout l'enjeu de la musique de film, c'est qu'à la fois être au service des films et en même temps se retrouver soi-même, creuser sa personnalité en fait quelque part. Quels ont été les premiers pas vers l'image? Quelles ont été les premières rencontres, la première expérience là-dessus?
Eh ben, en fait, très tôt, parce que donc, dans cette école de jazz, j'ai rencontré un réalisateur par ailleurs, un ami qui m'a proposé de faire la musique de son court-métrage. Donc ce que j'ai fait de façon très spontanée, je ne savais pas en fait utiliser un ordinateur tout simplement, c'était il y a quelques temps, c'était et donc j'avais pas Cubase, tout ça, machin, j'étais vraiment musicienne. Donc voilà, c'était vraiment, j'avais des copains musiciens et c'était, attention, top. Et voilà, on a enregistré comme ça.
Tu as eu vraiment une longue expérience dans le documentaire. L'approche de la musique pour un documentaire, est-ce que tu le conçois comme une fiction? Ou alors il y a vraiment une spécificité? Est-ce qu'on imagine que dans le documentaire, peut-être que la musique est moins présente?
Mais il n'y a pas un documentaires, il y a des documentaires, vraiment avec des approches très 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 différentes. Il y a des documentaires qui sont des documentaires plus, je vais dire, d'investigation ou d'enquête. Il y a des documentaires qui... Et puis il y a des approches extrêmement différentes, des documentaires qui sont avec un regard, une démarche beaucoup plus subjective tout de suite. Là, je viens de finir un documentaire il n'y a pas longtemps qui s'est tourné à Angers, d'ailleurs, avec une jeune réalisatrice qui s'appelle Sarah Bélanger. Magnifique documentaire, j'espère qu'il va aller dans plein de festivals. Voilà, où là, son point de vue était très, très assumé. Et donc là, pour le coup, j'ai fait une musique qui est vraiment assez proche d'une musique de fiction, je dirais, parce que son regard s'y prêtait. La question de la réalité, l'émergence de la réalité, elle se fait plutôt dans, peut-être dans la quantité ou de l'endroit où on va mettre de la musique.
Parce que la première question, parfois, dans la collaboration, dans le travail de musique de film, c'est la nécessité de la musique. Est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas ? Et parfois, c'est convaincre un réalisateur ou une réalisatrice qu'il lui faut de la musique. À cet endroit-là, de convaincre, de besoin de musique. Parfois, est-ce que ça t'est arrivé de te confronter à des réalisateurs ou des réalisatrices qui, justement, n'en voulaient pas et il fallait le convaincre ?
Alors moi, j'essaye pas de convaincre. C'est-à-dire que je suis au service de... Enfin, je suis très... toucher, je dirais, d'être au service, qu'on me fasse confiance pour que je rentre dans ce dialogue sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Moi-même, j'ai mon propre espace où je fais mes œuvres toute seule, mais là, on me demande voilà, d'intervenir. Donc, c'est quand même pas rien, et donc ça se fait en collaboration. Et il faut de la musique, il ne faut pas de musique. Par contre, ce qu'il faut, c'est une écriture. C'est penser une écriture du son, penser une écriture du silence, penser une écriture qui va venir jouer son rôle auprès des autres écritures du film. Donc ça, il faut aller jusqu'au bout de cette pensée, c'est plutôt ça. Donc il y a des discussions, non pas pour convaincre, mais pour savoir ce qui va servir au mieux le film. Mais au fond, c'est le film du ou de la réalisatrice. Donc, voilà.
Donc ça, c'est une collaboration, c'est aussi un dialogue. Et parfois, c'est répondre aussi à un besoin du réalisateur, décrypter ce qu'il veut. L'intention du réalisateur, au-delà même du besoin de musique, c'est comprendre ce qu'il veut.
Mais tout à fait. La musique, c'est un bazooka en termes d'intention. C'est extrêmement puissant. L'alchimie entre l'image et la musique, elle est très très forte. Donc, elle crée une lecture. Elle recrée une lecture. Donc, effectivement, en fait, la musique, pour moi, elle porte, elle pose la question. Enfin, moi, je pose la question. En fait, qu'est-ce que tu veux que le spectateur vive, quelle est l'expérience du spectateur sur cette scène-là ? Qu'est-ce qu'il doit vivre ? Qu'est-ce qu'il doit regarder ? Est-ce que tu veux le laisser ? Est-ce que la musique, elle va venir soutenir quelque chose sans commenter ? Au contraire, est-ce qu'elle va prendre un parti ? Qu'est-ce qu'elle va venir écrire ? Sur quelle piste elle va nous mettre ? Ça peut être aussi l'espace acoustique de la musique va venir jouer un rôle là-dessus, ça peut être le timbre. Il y a quand même une dimension extrêmement psychologique dans notre travail. Il y a quand même la question du dialogue, du travail avec, de la collaboration. Il y a aussi toute une partie vraiment psychologique. Je pense qu'on ne peut pas déposséder quelqu'un, et notamment le réalisateur ou la réalisatrice, de son projet, de son idée, de son film. Je veux dire, il y a une frontière, quelque part, à ne pas dépasser. J'apporte une expérience, un regard, une lecture. En fait, ce qu'il faut sans cesse poser, c'est l'intention. Quelle est l'intention du réalisateur ou de la réalisatrice dans cette scène ? Quelle est son intention ? Et là, il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher jusqu'à ce qu'on comprenne. Enfin, il ne faut pas lâcher. À un moment donné, il faut lâcher quand même.
Ouais. Tu disais tout à l'heure que dans le parcours classique que tu avais, il y a un moment donné, il n'y avait pas encore l'informatique. Voilà, tu faisais avec les musiciens. Aujourd'hui, un compositeur de musique de film, une compositrice de musique de film ne peut pas ne pas passer par l'informatique parce qu'on demande des maquettes, on demande vraiment de faire quelque chose sur l'ordinateur aujourd'hui. Donc il y a eu cette transition, j'imagine Camille, de « je fais avec mes musiciens » à « je fais devant mon ordinateur ».
Quelle douleur, hein. Ouais. Non, mais c'est très dur parce qu'effectivement, quand on est musicien, on est dans le corps. On est dans le corps et il y a un plaisir de jouer. Moi, j'étais vraiment, j'étais comme une athlète en plus dans cette école. Vraiment, je travaillais énormément. Et il n'y a pas que du plaisir, mais il y a quand même un plaisir du corps. Il y a une sensibilité. Et puis là, on passe dans autre chose. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que autant ça a été un peu douloureux et ça l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que passer 10 heures par jour comme ça, c'est dur. Il faut trouver justement des setups où on peut de nouveau jouer, de nouveau bouger, de nouveau être dans le jeu de la musique. Ce premier long métrage m'a à la fois révélé en fait ma place de compositrice, ma vocation, en tout cas ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai commencé à composer avec le cinéma et pour le cinéma. Et puis surtout, j'ai complètement plongé dans les capacités sonores, c'est-à-dire que je suis complètement tombée amoureuse de tout ce qui pouvait se passer avec l'ordinateur et le son. Donc c'est pour ça que je suis partie étudier la musique électroacoustique. J'en ai parlé à une amie compositrice qui m'a conseillé d'aller là-bas, au conservatoire du 20e. Et là, c'était tout ça. C'est vraiment travailler avec l'ordinateur, pas seulement un séquenceur classique, c'est-à-dire savoir enregistrer tout ça, mais il y a plein de choses à savoir.
Rien ni personne, qui est donc le premier long métrage de Galien Guibert avec Paul Amy, Françoise Lebrun et Suliane Brahim. C'est l'histoire de Jean, incarné par Paul Amy, un orphelin de naissance en cavale, qui laisse derrière lui sa femme et son enfant. Donc c'est un peu à la fois l'histoire d'une fuite et l'histoire d'une parentalité. Premier long métrage, donc je le disais, de Galien Guibert. Alors voilà comment la rencontre s'est faite et surtout comment la collaboration a eu lieu.
Alors avec Galien, on s'est rencontrés. D'abord, on a fait un court métrage ensemble, son court métrage Lune Noire. Et puis j'ai commencé à lire son scénario de long, vraiment plusieurs années avant que le film ne se fasse. Et à l'approche du tournage, il a dû tourner quelques scènes pour justement aller chercher des financements et tout ça pour monter son dossier. Et donc on a parlé de la musique et lui voulait une musique très classique de film noir. Donc c'est un film noir. Donc on est parti là-dessus et on a fait ses premiers essais en fait. Et il était hyper emballé, mais moi je me disais. Non, ça ne va pas. Il y a quelque chose d'autre à aller gratter. Donc, en tout cas, on a commencé très en amont à réfléchir et on a même donc pu essayer sur des images. Et puis, quand le film a été tourné, j'ai commencé à faire quelques musiques avant. Mais en fait, ça a été un travail d'écriture vraiment pendant le montage, très, 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 très long, très précis. Et voilà, c'était super de développer ces écritures ensemble.
Et chaque étape contredit la précédente, c'est-à-dire qu'on a des intentions sur le scénario qui sont contredites après le tournage et puis encore contredites sur le montage.
Pas forcément. Heureusement, quelquefois, ça m'est arrivé plusieurs fois, heureusement, de travailler sur scénario et d'avoir des fulgurances,
ou qui
des
choses, mais
totalement, de capter exactement ce qui se passe.
Thank you.
personne est un thriller. Donc j'imagine déjà d'emblée, cette couleur thriller, il y avait un peu des codes. Il fallait répondre aux codes du genre. Et qu'est-ce que c'est pour une compositrice, les codes du thriller?
On était parti sur cette piste déjà de musique plus classique, en fait. Moi, j'adore la littérature policière, par exemple. Je suis une grande fan de polar. Non, il se passe plein de choses. Il y a une âme, il y a une torture, il y a un drame, il y a une culpabilité, il y a quelque chose d'un peu comme ça, humain, sous ces thrillers, dans ces thrillers, une espèce de conscience comme ça, torturée. Donc il y a ça à aller chercher, mais la musique, elle va pouvoir raconter autre chose. Peut-être le flot de la vie, et puis cette chose qui commence à venir de s'inscrire dans ce flot de la vie. Je veux dire, il y a quand même quelque chose d'un peu comme ça. Et là, justement, en faisant ce switch vers une autre partition beaucoup plus électronique, en fait, j'ai un peu cassé tout ça parce que je voulais, on a petit à petit construit une musique qui ne commente pas, en fait, qui est vraiment comme un espèce d'espace psychologique, parce que c'est une chronique, en fait. On suit ce personnage dans sa fuite, on est tout le temps avec lui, ça se passe sur 3 jours. Et donc la musique n'était pas là pour commenter. C'est un personnage qui n'est pas très sympathique, auquel on va s'attacher au fur et à mesure, par les choix qu'il fait. Donc, il ne s'agissait pas d'être dans l'empathie avec lui, avec la musique. Et puis, ces espaces électroniques me paraissaient beaucoup plus pertinents par rapport à ce personnage.
Et ce qui est intéressant, dans les meilleures musiques de film, la musique de film n'est jamais une chose. Elle convoque parfois plusieurs choses et même des contraires. Et donc la rugosité et la douceur, on retrouve cela ici, la texture et la mélodie, et le code du thriller, quelque chose de sombre, et une lumière et un espoir. Et donc c'est là la force de la musique, et tu y parviens dans ce film, c'est vraiment marier les contraires. Je cite le réalisateur, dans une interview que j'ai pu lire, il dit qu'il avait peur que le film soit trop sec. Et il voulait que la musique apporte une part de lyrisme. Donc ça, c'est intéressant, c'est comment la musique peut à la fois soutenir l'image, mais en même temps la compléter, apporter une part plus invisible, le parfum du film peut-être.
C'est complètement ça. Pour moi, la musique, c'est la psyché du film, en fait. C'est vraiment son inconscient, et c'est comme ça que ça travaille chez le spectateur. C'est-à-dire que finalement, la musique, c'est un peu comme les odeurs, hein. C'est-à-dire on ne s'en aperçoit pas forcément quand on est là, et puis en fait, ça vous travaille. La musique, c'est un lieu de mémoire, comme le son. Donc on peut faire plein de choses avec la musique dont le spectateur n'aura pas forcément conscience. Lier des scènes entre elles, induire des petites choses avec des choix d'instruments. Donc effectivement, par rapport à ces espaces plus synthétiques que j'ai construits, par exemple, cette idée du violoncelle, que tu appelles rugosité, où effectivement, là, j'ai enregistré vraiment. Je voulais qu'on sente la matière, la corde, tout ça. Pour moi, c'était un peu la cicatrice de Paul, enfin de Jean.
C'est de la dentelle, c'est de l'orfèvrerie, c'est très délicat, c'est du pointillisme, hein. Il y a des petites notes comme ça avec beaucoup de silence, hein, donc ça ne surcharge pas l'extrait. Il y a ce jeu d'équilibre, de retenue.
Ce thème, en fait, ces quelques notes vont venir dans plein de versions différentes. On ne les reconnaîtra pas forcément, mais elles viennent dans toutes les... Elles vont être déclinées de plein de façons différentes. Alors, il y a eu 20 versions de cette scène. Il y avait des versions justement beaucoup plus chargées, parce que là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais ça, c'est la version vraiment qu'a choisie, par exemple, Galien. Parce qu'en plus, après, on tombe dans une autre scène où il y a plus de musique. Donc c'était comment arriver effectivement à cette délicatesse, comment laisser cette tension, est-ce que cette tension ce qui se passe entre ce couple. Est-ce qu'on le joue à la musique? Est-ce qu'on l'accompagne? Ou est-ce qu'on les laisse faire? Et est-ce qu'on vient juste effectivement ponctuer, rappeler, soutenir une forme de récit?
Et c'est un peu la musique du velours, c'est-à-dire qu'il rentre dans la chambre de l'enfant, il ne faut pas forcément faire beaucoup de bruit quand on rentre dans une chambre d'enfant. Eh bien, la musique joue cela, j'ai l'impression.
Oui, ouais, tout à fait. Mais ça, c'est la qualité aussi du piano, avec une pédale. Ce silence, je pense, crée aussi une forme de tension qui amène à la scène suivante où il passe à l'action, effectivement.
Il y a de la rugosité dans la douceur et il y a de la douceur dans la rugosité. C'est mêlé, en fait, parce que là, on entend quelques textures malgré tout.
Ouais, je ne les ai pas du tout conçus comme rugueux et doux. Je pense qu'il y avait vraiment ce thème qui est plus un thème un tout petit peu plus narratif, enfin, qui devient narratif à certains moments, d'ailleurs. Donc plus classique d'une certaine façon, qui va venir raconter quelque chose, qui va venir raconter quelque chose qu'on ne peut pas vraiment raconter autrement, en tout cas qui n'est pas dit dans le film, qui peut aussi être déconstruit, voilà, comme on l'a vu. Pour moi, cette musique-là que tu dis rugueuse, c'est un espace. Pour moi, c'est construire un espace.
Ce travail de texture, ce travail électroacoustique, j'ai l'impression que c'est la musique intérieure du personnage, on est avec ses démons.
On ne sait pas vraiment où il est lui, quoi. Il fait tellement de conneries aussi, on se dit, quand même. C'est redonner du corps et l'expérience émotionnelle du corps, c'est-à-dire que là, on bascule dans le drame, il a fait quelque chose, il a déclenché quelque chose de dramatique, et comment tout à coup... Justement, quand le drame arrive, quelle sensation, c'était d'être au plus près effectivement de ses sensations physiques, pas tellement dans sa tête, mais plutôt dans son corps, effectivement. Donc d'être au présent. Donc effectivement, je disais espace mental, mais c'est pas forcément de l'espace mental. Je me suis imaginé moi ce que lui ressentait, c'est-à-dire cette espèce de chose où on est traversé par une espèce de courant froid ou des sueurs froides, tout un tas de déchirements internes. C'était de suivre son corps.
C'est intéressant quand tu dis on n'est pas dans sa tête mais dans son corps. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas un film psychologique qui va expliquer le sentiment du personnage. C'est un film physique. C'est-à-dire qu'on vit avec lui. On est en empathie avec lui parce qu'on le vit de manière physique en fait. Donc en fait la texture, l'électronique permet cela. C'est une matière.
Mais toute la musique permet ça en fait. C'est pas seulement l'électronique. Je pense que toutes les musiques peuvent permettre ça avec n'importe quel matériau. Après peut-être la facture, il y a des factures qui vont venir convoquer ça plus. Mon expérience de la musique électroacoustique, c'est ce que je suis allée chercher dans mon expérience aussi de la musique électroacoustique et de la musique contemporaine. C'est aussi l'expérience du corps dans le monde qui prend pas forcément la forme d'une mélodie ou d'un motif. Je veux dire, notre expérience dans le monde, elle est faite de plein de choses différentes. On a plusieurs espaces, on entend plusieurs couches de choses à la fois. On est traversé par des choses qui vont parler à notre ventre, à notre cœur, à notre tête, je ne sais pas. Ressentir du soulagement. Voilà, on a tout un réservoir, en fait, de sons et de musique sur lesquels vient puiser toutes les musiques qu'on écoute, toutes les ambiances sonores dans lesquelles on est. Et je pense qu'il y a vraiment encore... Plein de choses à aller chercher du côté de l'écriture sonore au cinéma.
Vient d'entendre, est-ce que une phrase dans le scénario peut permettre de te donner l'inspiration de faire cette musique, ou alors tu as quand même besoin de l'image, de cette obscurité, de ce grain?
De toute façon, là où j'en étais, j'étais dans l'image. On a vraiment, comme je te disais, écrit ensemble. Je veux dire, lui a écrit avec le monteur Arthur Guibert, réécrit le film au moment du montage, ce qui est vrai pour tous les films. Hein, c'est vraiment un moment d'écriture, le montage. Et moi, j'ai écrit en même temps, j'ai vraiment suivi. On a vraiment cherché, tâtonné, donc non, j'aurais pas pu le faire en dehors de l'image à ce moment-là.
Il y a à la fois ce côté illustration de l'image que l'on est en train de voir, mais évidemment, il y a aussi prendre en compte la globalité du récit, la dimension narrative d'une musique, parce qu'il y a une trajectoire dans ce film, la trajectoire du personnage. On part de l'obscurité vers peut-être un peu plus de lumière, marquer l'espoir du personnage. Comment tu t'es situé à ce niveau-là de la narration ?
Il y a une partie plus narrative de la musique, donc, qui est celle qui arrive avec cette mélodie et qui vient un peu plus tard dans le film et qui va servir à cette construction du récit. Et puis, surtout, il y a ce bébé qui va nous le rendre tendre, en fait. C'est un film qui est quand même assez violent, d'une certaine façon. Enfin, c'est pas un film gore, mais qui a quand même une certaine violence. Mais il y a une forme de tendresse, de regarder cet homme, ne pas savoir quoi faire et petit à petit trouver le lien avec son enfant.
On a la douceur, puis la rugosité qui revient. Mais donc, il y a un parcours comme cela, et c'est intéressant comment la musique a un parcours, c'est qu'on passe d'un personnage, donc la tutrice de cette famille d'accueil, au bébé, et de nouveau avec le personnage principal. Et donc, elle crée du lien entre les personnages, et elle crée cette évolution, parce que d'un piano solo, les cordes, le violoncelle fait son entrée, pour ensuite retrouver les textures. Donc, il y a tout ce parcours, ça, c'est très très beau de voir ce parcours musical, mais ça se construit à l'image.
Oui, ça se construit à l'image. Enfin, je pense que construire la partition d'un film, c'est aussi construire des liens entre les différents thèmes et les différentes parties sur lesquelles on va travailler musicalement, les faire résonner.
Et la question du placement est aussi très précise, parce que par exemple, on entend le piano solo et le violoncelle fait son entrée au moment où on découvre le couffin, le berceau. Ça, c'était vraiment un ajustement à l'image près.
Oui, oui, et même avant ça, il y a ce travelling arrière où on voit le visage de Jean, et voilà, quand est-ce que la musique va partir sur ce travelling ? En fait, il y a vraiment une horlogerie, une minutie dans l'émotion, dans l'écriture de la musique, parce que justement, c'est assez puissant. Il y a vraiment un timing par rapport au mouvement de l'image, à la caméra. C'est une question d'artisanat. C'est vrai qu'il y a un métier. Au-delà de la pure composition musicale, il y a vraiment un métier d'expérience et de savoir-faire dans la musique de film.
Une expertise, finalement, et que le compositeur et la compositrice offrent au réalisateur. Et la réalisatrice, c'est une expertise, et c'est finalement de faire comprendre au réalisateur que le compositeur, la compositrice est son allié.
Ah ben ça, de toute façon, c'est la base. Hein. Mais ça se fait en amont. C'est vraiment la rencontre. Je veux dire, oui, c'est vraiment la rencontre au-delà du travail in situ.
On a parlé du violoncelle, et il y a donc aussi une collaboration avec Laura Roura Fouaxa, qui est la violoncelliste. Elle est intervenue dès le début, ou alors il y a eu une étape de maquette, c'est-à-dire un faux violoncelle, et ensuite l'interprétation est venue ensuite.
Étant donné que les budgets étaient quand même assez restreints et que moi, en plus, je ne vis pas en France actuellement, je me suis vraiment débrouillée comme je pouvais. Et surtout, c'est moi qui ai fait la prise de son, que j'ai faite chez moi, dans mon studio, voilà, comme ça. Donc la maquette est devenue la version définitive, parce que la prise de son était super. Elle est intervenue quand je savais que je voulais du violoncelle, mais j'ai enregistré de la matière. Je ne lui ai pas fait jouer la partition directe. On avait le playback, des musiques et du thème, etc. Mais j'ai surtout enregistré de la matière et voilà. Vraiment dans la musique très synthétique, très presque vinyle pour moi. Et on avait besoin, et Galien y tenait aussi absolument, à ce qu'on puisse trouver effectivement cette porte d'entrée vers quelque chose de plus tendre, comme tu disais, et vers quelque chose d'un tout petit peu plus narratif à certains moments, parce que le film en avait besoin. Moi, j'utilise tout, tu vois. J'utilise des synthés comme je peux retravailler donc de façon électroacoustique, des sons de piano. Dans le thème du générique, par exemple, toute la rythmique, elle est faite à partir de PIDs que j'ai transformé en fait en sons de percussion.
Merci Camille Delafont. Rien ni personne de Galien Guibert en salle le 28 février. Écoutons un dernier morceau, celui du générique de fin.